culture le dispute à son humour ou son humour le dispute à sa culture et qu'il nous rend les choses très, très abordables. Voilà. Donc, je laisse la parole au docteur Albert Fachler, président de la communauté juive de Chambéry. Je précise qu'il a gentiment accepté que donc, on enregistre son intervention et qu'elle sera sur le site internet à partir d'une dizaine de jours dès que Norbert aura fini de se soigner en cure. Voilà.
Tu prends la main ou comment tu...
Oui, oui. Écoutez, merci donc d'avoir la patience de m'écouter sur ce propos que j'espère dérangeant, parce que j'ai pas du tout l'intention d'être dans, politiquement, c'est le cas de le dire, correct ou le religieusement correct en la matière. Lorsqu'on me propose un thème de conférence, j'ai toujours l'habitude de retourner aux définitions. Pour le Robert, la politique, politikos, c'est ce qui concerne les citoyens, c'est ce qui est relatif au gouvernement des hommes. C'est la technique, c'est la science, c'est l'art de la pratique du gouvernement des sociétés humaines. Ça faisait initialement partie à l'époque grecque de la morale, mais bien vite, il y a une séparation de la politique et de la morale. Pour le Larousse, c'est l'acte de gouverner la cité, science et organisation des affaires publiques, initialement émané du divin, mais qui devient pouvoir civil, sans préoccupation de morale ou de religion, depuis bien évidemment Machiavel, depuis Spinoza. C'est également le problème du droit naturel, de la représentation et de l'égalité devant le politique. Alors, pourquoi je disais que ça allait être un peu dérangeant? Parce qu'en fin de compte, je crois sur ce sujet que nous touchons actuellement les limites de la civilisation des Lumières, de la démocratie et de la laïcité. Pourquoi je dis cela? J'aime bien, tu as dit tout à l'heure que j'aimais les anecdotes, il y en a une qui me plaît beaucoup, c'est l'histoire qui se passe en Espagne après la Reconquista, quand les Juifs étaient morts, partis ou convertis, et c'est un curé qui visite ses ouailles, et qui s'aperçoit, c'est vendredi, que sur la table il y a un poulet. Alors il dit au monsieur, mais écoutez, vous n'avez rien compris à ce que je vous ai dit, le vendredi, c'est maigre, c'est du poisson. Mais regardez bien, dit le monsieur, vous voyez bien que c'est un poisson. Et le curé dit, moi je vois un poulet. Ah, dit le juif converti, il dit, pourtant je lui mets le dos sur la tête et je lui dis, à partir de maintenant, tu es poisson. Alors, dans la sphère de la laïcité, est-ce que nous sommes poissons, est-ce que nous sommes poulets? Est-ce que le fait d'avoir repoussé la pratique religieuse, les options religieuses dans le privé, ça ne nous rend pas un tout petit peu poulet, si vous voulez. Parce que je crois qu'on ne décrète pas cette séparation des champs de manière aussi abrupte. Est-ce que nous sommes tous devenus schizophrènes? Est-ce que nous sommes parcellisés? Est-ce que nous sommes autistes? C'est-à-dire, est-ce qu'une partie de nous-mêmes échappe, est-ce que nos personnes privées échappent à notre domaine public? C'est une question que je voulais poser. Parce que là, on touche au doigt de la laïcité au moment même où le cadre de la laïcité républicaine explose. Vous avez une affaire aujourd'hui qui a été jugée où on a admis l'idée qu'une femme pouvait porter un voile dans un espace public qui est celui d'une crèche. Donc je veux dire, quelque part, ce n'est pas des lacunes de la laïcité, ce sont les limites de la laïcité qu'on touche. Et on les touche également pour ce qui est de la démocratie. Vous observez tous que le phénomène démocratique est né avec les Lumières est en pleine régression partout. On peut dire que la démocratie n'est plus le modèle universel des sociétés politiques contemporaines. Et ça l'est essentiellement, et vous le verrez tout à l'heure, parce que tout simplement, avec l'apparition des Lumières, avec l'apparition des... Oula. Il y a de l'écho. Avec l'apparition... Oula. Avec l'apparition des libertés, il est évident qu'en même temps est entré le loup dans la bergerie, qui est tout simplement le libéralisme. Qu'est-ce qui nous fait toucher actuellement les limites de l'espace républicain, de l'espace démocratique? C'est tout simplement la société libérale avancée, et ce sont les lois du marché. Donc vous voyez ce dont je veux parler ce soir, limite de la laïcité, limite de la démocratie, limite de l'exemple républicain tel qu'il a été vécu jusqu'à présent. Concernant le judaïsme et la politique, c'est une très très vieille histoire qui est marquée d'illusions, de désillusions et d'échecs absolument répétés. Je vous donne deux exemples qui sont des exemples du livre. On nous raconte dans le Talmud que ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. C'est la loi de l'idolâtre, c'est la loi de Sodome. Pourquoi Sodome a été détruite? Pas du tout parce que les gens avaient, comme on le dit partout, des mœurs spécifiques. Ça n'a strictement rien à voir, bien que la préoccupation de l'homosexualité transcende tout le texte biblique jusqu'alors, ce qui pose, dit bien le caractère absolument rémanent du problème. Pas du tout, parce que Sodome et Gomorre étaient les exemples types des sociétés libérales de l'époque. C'était le Wall Street de l'époque. C'est pour ça que ça a été détruit. C'est les gens qui n'appliquaient pas les règles du partage, les règles de la justice sociale. De la même manière que nous dit également le Talmud à propos de la politique, eh bien il nous dit, c'est dans Borachot, le traité Borachot, Rabbi Shmuel dit, il n'y a entre le monde d'aujourd'hui et le monde futur, le monde messianique, que l'oppression des nations. C'est-à-dire que pour le Talmud, c'est le pouvoir politique qui est l'écran entre le monde à venir, celui de la justice universelle, et celui du présent. Donc vous voyez ces deux exemples qui sont quand même très très forts et qui remontent à notre tradition. Pourquoi cette réflexion sur la politique? Parce que tout simplement, les espaces de temps où le judaïsme a été libre de sa politique, de sa gestion, sont extrêmement restreints au regard de l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif voit apparaître l'élément politique bientôt, puisqu'on va fêter Pessah, lors de la sortie d'Égypte. Le pouvoir politique et théocratique en Israël naît avec Aaron. Et vous savez qu'il y a ce vieux balancement qui nous berce et qui nous donne le mal de mer depuis si longtemps entre la religion des tentes, celle de Moïse, celle de l'individu, et celle de l'organisation, de la théocratie, de la prêtrise, qui est celle d'Aaron. Donc ce pouvoir vient là. Et l'échec vient là également. C'est lorsque le peuple d'Israël s'organise dans le désert que commencent effectivement, aux yeux de Dieu, les péchés. Pourquoi Moïse ne rentre pas sur la terre d'Israël? Pas du tout parce qu'il a fait moult et moult péchés, pas parce qu'il a douté, pas parce qu'il a frappé le rocher, mais parce que tout simplement il a dénombré le peuple juif. C'est-à-dire qu'il a décidé d'une organisation sociale, politique et économique du peuple juif. Voilà un peu le problème de ce balancement. Donc ce questionnement de l'irruption du politique dans la foi juive, dans le texte biblique, est un questionnement important. Le pouvoir politique des Juifs sur leur terre, après bien sûr l'exil, après la conquête de la terre ou l'installation sur la terre de la promesse, ça va être extrêmement bref. Hein, et vous devinez bien que ce pouvoir politique va achopper très très vite sur le caractère conforme des rois d'Israël, des dirigeants d'Israël, à des modèles qui ne sont pas du tout conformes à la tradition biblique. Donc l'échec est absolument prévisible. Après David et Salomon, cette dispersion, première dispersion, la seconde dispersion est encore plus emblématique, puisque c'est parce que les Asmonéens, qui représentent tout à fait typiquement cette association, j'allais dire incestueuse, du politique et du religieux, de la royauté et de la religion triomphante, vous voyez à quoi je pense actuellement, parce que c'est bien une tentation de l'État d'Israël actuel de revenir à cette époque triomphante de la réunion de l'Église et de l'État, je veux dire, cette tentation-là va être suicidaire pour le peuple juif, et je crois que quand dans la guerre entre Jean Hyrcan II et Aristobule, lorsqu'on appelle les Romains, bien évidemment les Romains restent et impriment leur marque, donc c'est la fin pratiquement de la présence politique des Juifs sur leur terre pendant fort longtemps. Ce qui veut dire que cette préoccupation du politique et du religieux va devenir tout à fait secondaire lors de l'exil et de la dispersion, qui sont quand même la majorité de cette période d'existence du peuple juif. Lorsque les Juifs sont dans les ghettos, lorsqu'ils sont persécutés dans tel pays, en particulier dans l'Europe chrétienne, mais aussi, ne soyons pas angéliques, dans le monde musulman, où ils sont dans des mélars, dans des ghettos, hein, n'est-ce pas hein, je veux dire que le politique est tout à fait secondaire. Qu'est-ce que c'est que le politique? C'est l'organisation de la communauté pour pouvoir payer les impôts aux gens qui les hébergent. C'est le racket. C'est le juif du trésor, celui qui va proposer des ressources aux potentats. Vie réglée bien évidemment par des pogroms, par des massacres ou des choses comme cela. Donc qu'est-ce qui reste au peuple juif à cette époque-là de politique? C'est-à-dire que la décision de rester ou de quitter ou de s'en aller, c'est la décision de s'assimiler, de se convertir ou de partir tout simplement. Et de partir pourquoi? Non pas parce que le politique est si secondaire que cela, mais parce qu'en fin de compte, cette conscience aiguë que si un pays persécute ses juifs, c'est pas les juifs en tant que tels qui sont persécutés, ce sont les valeurs de la Torah. Le monde qui les entoure, le monde hostile, va vouloir détruire essentiellement les valeurs qui sont portées par la Torah. C'est de ça qu'il s'agit. Donc déjà, le fait de partir, le fait de ne pas s'assimiler, le fait d'accepter le ghetto, le fait d'accepter un particularisme, c'est une volonté absolue de considérer le monde qui vous entoure comme un monde idolâtre. Je vais m'expliquer dans un moment sur ce que c'est que le monde idolâtre et la conversion, en fin de compte. En fin de compte, c'est un acte politique extrêmement fort déjà que de résider dans un ghetto, même si on n'a pas le pouvoir politique. Qu'est-ce qui se passe au fil du temps? Il est bien évident qu'au fil du temps, il y a ces processus qu'on appelle, et je souligne bien que je mets des guillemets, ce processus d'émancipation. C'est un processus qui va naître, et vous, protestants, vous connaissez bien cette guerre pour l'émancipation, mais aussi cette illusion. C'est un processus qui va naître en Allemagne, dans le courant du XVIIIe siècle, et qui va arriver en France, puisque les Juifs sont émancipés, et comme le montre très bien le livre d'Elisabeth et de Robert Badinter, ils deviennent ensuite, en septembre 1791, des citoyens libres et égaux, un peu comme les protestants, quelque temps avant, l'étaient devenus. On ne m'empêchera pas de penser que quelque part, cette entreprise d'émancipation des Juifs n'était, et l'abbé Grégoire l'avait bien dit, il l'avait dit, lui qui était le promoteur de cette opération, c'était un processus tout simplement de conversion massive du peuple juif à des valeurs qui n'étaient plus tout à fait chrétiennes, mais qui les faisaient vivre à jamais dans un monde chrétien et avec les lois de ce monde. Donc quelque part, petit bémol quand même que je mets à cette émancipation tant et tant célébrée. D'ailleurs, le résultat ne s'en fait pas attendre. Toutes les structures existantes du monde juif, toutes les communautés s'effondrent. Le peuple juif, en tant que communauté, disparaît littéralement entre 1791 et 1808. Qu'est-ce qui se passe en 1808? Napoléon Ier réunit, lui qui était quand même au fond très discrètement antisémite, il est très voltairien, donc très antisémite. Hein. Là encore, je vais peut-être choquer quelques personnes. Je crois qu'il y a des aspects de Voltaire qu'on ne peut pas méconnaître et qui ne sont pas spécialement plaisants. Et ce Napoléon convoque le Sanhédrin et institue, bien évidemment, une structure civile de la religion en France. Ce n'est pas dénué d'arrière-pensée. Il faut qu'on célèbre dans toutes les synagogues les vertus et le primat de l'empereur des Français. Et il faut qu'on fournisse des soldats à l'armée française. Et il faut qu'on surveille ces communautés sur le plan politique. Donc vous voyez ceci, cette organisation sur laquelle nous vivons encore actuellement et que nous souhaitons pour nos amis et nos frères musulmans dans ce pays et qui fonctionne en somme très bien, elle n'était pas dénuée également d'arrière-pensée. Ce processus de sécularisation du peuple juif va se poursuivre au point qu'on peut dire que la situation, ne serait-ce qu'en France des juifs, en Europe en général, devient une authentique success story, puisque ces gens s'intègrent à tous les rouages de la société, de l'université, de la finance, de la banque, de l'industrie, et sont des promoteurs extrêmement actifs, un petit peu de la modernité, et même de l'idée démocratique, puisque Bernard Lazare appellera les Juifs de France, à son époque, les fous de la République. Pourquoi les fous de la République? Parce qu'ils sont, ils remercient un pays de leur avoir ouvert les portes, tant de portes, de leur avoir permis cette accession sociale, et ils sont les premiers à soutenir cette séparation d'Église et de l'État qui leur est tellement profitable à court terme. Mais est-ce que cette séparation va les mettre à l'abri des catastrophes qui vont arriver? La première, feu rouge, c'est l'affaire Dreyfus, qui montre quand même bien que ce monde, le monde des Proust, le monde des Bernard Lazare, le monde des Fould, le monde des Rothschild, peut être complètement bouleversé par un crétin, un analphabète comme Drummond, par exemple, par la libre parole. Je veux dire que cette parole antisémite d'exclusion, cette négation des valeurs universelles du judaïsme, peut être portée par n'importe quel folliculaire ou journaliste imbécile ou pamphlétaire. Donc je veux dire, c'est déjà un coup de semonce. Cette parole-là, on va la retrouver dans le statut des Juifs de Pétain. C'est la même parole qui va revenir. Donc, c'est, là encore, c'est une balise, c'est une limite qu'on peut porter au résultat un peu de cette sécularisation du peuple juif. En plus de la sécularisation, il y a la globalisation qui est liée un tout petit peu à l'ouverture du monde. Alors c'est vrai que le schéma universel des démocraties consiste à considérer les juifs comme pratiquant une religion dans leur particulier, mais citoyens comme tous dans la société, il n'empêche que ce processus sera largement contrebattu quand on verra l'expulsion des juifs des pays arabes dans le courant des 60-70 dernières années, quand on verra les persécutions à l'égard des juifs dans le monde communiste. Compétition de deux utopies, vous le devinez bien. Parce qu'il était, tout à l'heure je citais cette belle phrase de Disraeli qui raconte que, enfin, en fin de compte, les grandes idéologies du XXe siècle revêtent les vêtements des religieux quand ceux-ci sont au bain. Je veux dire que quelque part, chacune de ces utopies va vouloir être une nouvelle religion, un nouveau messianisme, une nouvelle espérance, comme l'avait fait la Révolution française, en revêtant, lors de la fête de la nation, les oripeaux qu'on considérait abandonnés de la religion. Je veux dire, quelque part, c'est quand même très facile de se travestir. Donc, globalisation, je dis sécularisation comme échec, je dis globalisation comme échec, et je dis quelque part démocratie également comme échec. Car, premier exemple que j'avais donné, c'est le fait que la démocratie se réduit dans le monde. Le nombre de pays authentiquement démocratiques diminue tout à fait dans ce monde. La deuxième chose, c'est que cette démocratie est en échec parce que tout simplement, elle a totalement oublié que le pluralisme sans dimension éthique conduisait au relativisme. C'est-à-dire que tout est pareil. Tout devient pareil, et la parole de chacun est tout à fait la même. On aboutit à une espèce d'obscurcissement de la pensée. Ça, c'est le premier élément de choses. Ce qui explique que le rejet de la démocratie s'accompagne souvent d'un retour au fondamentalisme, d'un retour au fascisme, d'un retour à ceci. Parce que tout simplement, cette espèce de relativisation des idées qui permet l'expression quotidienne sur Internet de propos antisémites, de propos racistes, et parce que la parole de tous est respectée. Donc ça témoigne bien du fait que la parole de tous n'est pas, par définition, acceptable, parce qu'elle porte en elle des scories extrêmement dangereuses. La deuxième chose, c'est qu'on a substitué à cette notion de vie bonne qu'apportaient les religions, les lois du marché. Je vais vous dire un texte très, très intéressant, si j'arrive à le retrouver, d'Habermas, à cet égard, à propos justement de... Si j'arrive à mettre la main dessus, bien sûr. Ah, je vais sûrement y arriver. Bon, sinon ce sera pour... Habermas fait dans un texte qui s'appelle « Les vies gâchées », voilà ce qu'il dit. Parmi les causes de l'érosion de l'éthos démocratique en Occident, de façon significative, ce sont les politiques néolibérales menées depuis 40 ans qui en sont responsables. Les marchés qui, de fait, ne peuvent être démocratisés à l'instar d'administrations étatiques, assument de plus en plus des fonctions de régulation dans le domaine de la vie qui avaient été jusqu'à présent maintenues en cohésion, soit par des voies politiques, c'est le rêve démocratique, soit par des formes pré-politiques de communication, ce sont les religions. C'est donc un constat d'échec portant sur les problèmes sociaux du libéralisme qui motive à nouveau la considération positive des modèles religieux du vivre ensemble. Si ce sont les vies des individus qui se trouvent altérées par la généralisation de la concurrence économique et l'accroissement des inégalités, il n'est guère étonnant que les communautés religieuses apparaissent de plus en plus et sans équivoque comme des lieux de résistance. Donc cette idée qui commence à se faire surface, c'est que les sociétés libérales, qui ont été parallèles aux sociétés démocratiques, n'ont pas été capables d'assurer leur propre légitimité. Elles se sont constituées à partir de présupposés. Ces présupposés, c'était liberté, égalité, fraternité. Or, vous devinez bien dans la société qu'on voit que la liberté, c'est celle de quelques-uns, au détriment de beaucoup d'autres. L'égalité, elle est conditionnée par des facteurs économiques, Quant à la fraternité, elle est conditionnée par des facteurs de référence de plus en plus obscurantistes, un communautarisme absolument grandissant. C'est-à-dire que, comme le disait également Habermas, le drame des sociétés démocratiques et libérales, c'est que l'on n'a pas la conscience du manque qu'ont les religions. Ça, c'est une thématique très forte dans le judaïsme, cette notion du manque. Parce que tout simplement, cette notion du manque est illustrée dans la tradition juive, il y a une belle étude de Bernheim là-dessus, par la circoncision. Le fait de manquer de quelque chose, c'est faire une place à l'autre. Je crois que ce qui manque à nos sociétés, y compris la société laïque et républicaine, c'est de faire une place à l'autre, en tant que personne, en tant qu'acteur économique, en tant que porteur d'une parole. Laisser une place à la parole de l'autre. Et on revient à cet échec du pluralisme absolu, sans dimension éthique, où quelque part l'utile dépasse les valeurs morales. Donc ce que peuvent apporter les religions en la matière, c'est la substitution un petit peu à ce monde utilitariste de la notion de justice. Or, dans la tradition juive, il est bien évident que la marque même du monde messianique, du monde nouveau, c'est tout simplement la justice. Justice sociale, justice nationale, restauration et unité. Et j'en reviens à cette thématique que j'ai évoquée un peu rapidement tout à l'heure, qui est celle de l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie pour le peuple juif? Pourquoi le Deutéronome nous dit aux juifs, tu ne t'arrêteras pas aux idoles que j'ai proposées aux nations? Ben ça, c'est pas du mépris. Ça veut dire simplement que les fonctions dévolues aux uns, aux nations et aux juifs sont tout à fait différentes. Pour les nations, les idoles, qu'est-ce que c'est que les idoles? C'est la reconnaissance par le Deutéronome que les idoles ont une valeur. Ce sont des valeurs sociales, météorologiques, économiques, la fécondité, l'agriculture. Simplement, ce sont des valeurs partielles. Tu ne t'arrêteras pas au côté partiel des choses. La vocation de celui qui lit la Bible et qui croit dans ce texte biblique, c'est cette vocation à l'unité, c'est-à-dire à la restauration de l'unité du nom. Nous terminons le texte fondamental qui est une action en deux fois, qui s'appelle Alenu le Chaper. Notre idée, c'est que nous attendons ce temps où le nom de l'Éternel sera un et où le monde sera un. Bayomahu, Yadonai Echad, Ushem Echad. En ces temps-là, Dieu sera unique et son nom sera unique. Eh bien, j'aime bien cette... moi qui étais l'élève de Manitou, qui était lui-même l'élève de Jacob Gordine dans la Résistance, quand il racontait que toutes les religions, même les idolâtres, toutes les philosophies sont des perles. Le rôle du juif et du lecteur de la Bible, c'est le fil qui va réunir toutes ces perles pour en faire un collier unique, la fin de la création. Réunir toutes ces valeurs partielles pour en faire un tout, et permettre l'éclosion de cet homme nouveau, cet homme complet qui témoignera de la fin de la création, la fin de ce grand Shabbat de l'humanité qui verra ses temps messianiques. Cet homme complet qui sera fait de toutes les valeurs représentées par le monde. Or, je dirais, pour en terminer avec cet exposé, que cette société libérale, nous la récusons, parce que c'est une nouvelle idole, comme le corps est une nouvelle idole. Comme un joueur de foot gagnant beaucoup d'argent est une nouvelle idole, comme un chanteur est une nouvelle idole, comme le bronzage est une nouvelle idole, comme le tatouage est une nouvelle idole. Ces valeurs partielles qui en soi n'ont rien de répréhensible. Moi, j'ai rien contre M. Benzema, j'ai rien contre tel et tel joueur de foot. Mais quelque part, ça représente une vision partielle de nos possibilités, de notre réalisation. Le rôle des juifs et le rôle des gens qui, comme vous, sont des lecteurs et des locuteurs du texte biblique, c'est de concourir à cette réunion des valeurs en écartant, bien évidemment, ces valeurs partielles. Et je vois dans cette laïcité qui est castratrice, je vois dans le libéralisme qui fait de chaque individu, non pas un être qui pense, mais un être qui consomme, les nouvelles idoles du contemporain. Et quand je parle du religieux et du politique, je dois dire que nous avons un premier devoir, c'est justement se redonner cette lecture fondamentale un peu de ce qui nous entoure, en essayant bien de comprendre ce qui nous entoure, mais en essayant également de dépasser, pour revenir tout simplement à notre vocation initiale, notre vocation commune, à vous comme à moi. Alors vous allez me dire, ça m'éloigne un peu du sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est est-ce qu'un engagement politique est valide? Et moi, la réponse est la mienne. Je veux dire que si cet engagement politique il est corseté par cette laïcité, s'il est ghettoisé par cette laïcité, ça me va pas du tout. Parce que je ne suis pas parcellisé, je ne suis pas juif et docteur et pédiatre et homme de la cité avec des engagements politiques. Je suis un tout, absolument. Et je dois porter cette vérité qui est la mienne. C'est que je récuse en tant que nouvelles idoles aussi bien les modes que les idéologies, dont nous avons bien vu qu'elles étaient des utopies faillibles. Le communisme en fait partie. Grand débat, pourquoi il y a eu tant de juifs dans le communisme? Parce que c'était tout simplement une nouvelle utopie universelle. C'était un nouveau messianisme. On a vu comme ça a tourné. Depuis que le communisme s'est effondré, maintenant c'est le libéralisme. Et là encore, on est en présence de nouvelles idoles qu'il faut savoir combattre au risque de notre vie même, du sens même de notre vie. Parce que notre vie à nous, c'est de proposer aux gens une vie bonne. Et pas forcément une vie utilitariste et une vie de consommateur. Et ça, la société libérale est incapable de le faire. Et la démocratie, qui malheureusement est elle aussi dans une relation incestueuse avec la société libérale et consumériste, ne peut pas le faire. Donc c'est là que nous intervenons en disant aux gens, il y a une espérance, il y a une consolation, il y a un après Wall Street. Il y a quelque chose que nous portons fortement en nous, qui est cette idée de la justice, cette idée du partage, cette idée d'une optimisation, d'une amélioration possible de chaque être humain jusqu'à la fin de ces temps et à la venue de ces temps futurs, où nous pourrons espérer être un peu un jour ce que la Bible appelle le fils de l'homme, c'est-à-dire un homme qui est achevé et qui termine la création divine. Voilà ce que je voulais en dire.
Merci Albert, effectivement ça décoiffe. Je pense qu'il va nous falloir un petit moment pour atterrir. Et tout ça avec facilité. Donc voici le moment des questions. Je vous rappelle que pour qu'on comprenne bien la réponse du docteur Albert Fachler, il faut qu'on ait bien entendu la question. Donc je vais me déplacer avec le micro. Si vous pouvez me faire un petit peu de place au milieu que j'arrive à circuler. Merci. Alors, qui veut poser une question ? Charlotte.
D'abord, merci pour cette présentation. Alors, j'ai été arrêtée par votre expression « la laïcité castratrice » qui m'interroge. Donc, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur votre vision, en tout cas, de cette laïcité aujourd'hui. En tant que protestant, pour nous, la laïcité a plutôt été libératrice de par l'histoire. Voilà, donc j'aimerais que vous m'en disiez un petit peu plus là-dessus.
Ça peut faire l'occasion d'un séminaire, hein, parce que
c'est toujours pareil, on n'est pas des enfants, il y a ce qui est, comment dirais-je, ce qui relève de l'organisation du monde et ce qui relève de la reconnaissance des droits, qui est tout à fait légitime. Moi je pense que si des communautés juives et protestantes existent dans ce pays, c'est grâce aux lois de la séparation de l'Église et de l'État. 1905, c'est magnifiquement illustré, j'ai lu ça avec intérêt en vous attendant, par votre exposition qui est tout à fait didactique et intéressante. Il n'empêche que, la laïcité actuelle, ne vous en déplaise, évolue vers un laïcisme militant. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible de parler du fait religieux en dehors de chez soi, ou en dehors de son église. Et ça, c'est pas normal. Dans une société, je parle pas de la tradition juive, et quand une petite fille qu'on emmène visiter un musée vous dit « c'est très beau les tableaux que tu m'emmènes voir, mais qui c'est cette dame avec le bébé sur les genoux ?» Je veux dire, ça témoigne d'un degré de barbarie extraordinaire. C'est que l'Europe a annulé les propres sources de sa culture. Méconnaître tout ce qu'il y a de juif et tout ce qu'il y a de chrétien dans la culture européenne, méconnaître que les lois de la République, mais connaître que le statut même de l'Europe est adossé à des valeurs judéo-chrétiennes relève d'une cécité délibérée. C'est qu'on est vraiment dans la régression barbare quand on annule ses propres racines. Donc c'est cette espèce de lien objectif entre les valeurs éthiques issues de la Bible et le monde républicain qui me semble inapparent actuellement. La laïcité corsette un peu notre expression parce qu'on se censure dans le monde extérieur. On n'intervient pas en tant que juif, en tant que protestant, alors que ça devrait être exactement le contraire. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que mes activités culturelles, la musique, la littérature, la philosophie, éclairent mon activité sociale et civile. Je ne serais pas le même médecin si je ne priais pas, si je ne mettais pas mes tefilines. Je ne serais pas le même médecin si je n'écoutais pas la musique, si je n'écrivais pas des textes. Je veux dire que chacune de nos formes de pensée éclaire notre vie sociale au profit de tout le monde. Et on nous a dit, la société actuelle nous dit, c'est au détriment de tout le monde. Et on arrive à des choses inacceptables, inacceptables. On ne peut plus enseigner la Shoah dans une école de banlieue, parce que vous avez une révolte des petits musulmans. On parle des juifs encore et toujours. Et c'est là qu'ils rejoignent le propos des antisémites d'extrême droite. On parle trop des juifs. Moi, je trouve que de toutes les expériences douloureuses de l'humanité, on n'en parle pas assez. C'est exactement le contraire. C'est en cela que je dis que la laïcité est devenue castratrice. Parce que la laïcité belle idée républicaine, c'est-à-dire neutralité, c'est plus neutre du tout. C'est un processus extrêmement actif de déculturation. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure tu as dit, je te l'avais dit au téléphone, je vais dire des choses qui décoiffent parce que c'est ma révolte. Je suis révolté par cela. Je suis absolument révolté qu'on puisse plus dans un lieu de paix comme une école ou comme une cour de récré ou dans une rue évoquer des problèmes qui sont des problèmes qui nous sont tous communs. Mais comme ils relèvent de l'origine, on n'en parle plus. Est-ce qu'une société peut fonctionner sur la négation des origines physiques et culturelles ? Impossible. C'est la négation de toute société. C'est pour ça que j'ai été volontairement choquant en vous parlant de laïcité qui corsette et de laïcité qui est arrivée au bout, du bout, du bout, du bout de sa validité philosophique.
Merci. Question ? À mon tour d'être choquant. Je voudrais relier tout ce que vous venez de dire avec ce qui se passe dans son tout petit État, en guerre contre ses voisins, où la démocratie fait de cet État un des États au monde le plus démocratique. Et vous dites que la démocratie, c'est fini. C'est foutu, ou je ne sais pas. D'ailleurs, si vous pensez en disant ça, qu'est-ce que vous proposez ?
J'ai dit que le nombre d'États démocratiques dans le monde a diantrement diminué. Ça a été un rêve. Attendez, je vais vous répondre. Je vais vous répondre.
Je vois que je me suis mal fait comprendre. Je dis simplement que l'utopie démocratique est une idée généreuse, admirable, à laquelle j'adhère totalement, mais qui est en voie de régression dans le monde. Des États authentiquement démocratiques, ce qui était le projet de la plupart de la civilisation contemporaine, ça diminue diantrement. Il n'y a plus beaucoup d'États démocratiques. Vous citez l'un d'entre eux qui est une authentique démocratie, et c'est vrai, au point que politiquement, elle est complètement paralysée. Elle est comme la 4e République, elle est incapable de faire des choix politiques. Elle commence à les faire, Dieu merci, mais elle est incapable de faire des choix. Laquelle société est affligée d'un syndrome, qui est d'un syndrome que je combats littéralement? Tout à l'heure, je vous ai parlé des Hashmonaïm, des Asmonéens, Judas Maccabée, qu'on chante partout. Eh bien, pour moi, les Asmonéens, pour la tradition juive, je le dis à chaque fête de Hanouka, quand je fais allumer les bougies aux enfants, je leur dis méfiez-vous, méfiez-vous. Parce que les Asmonéens ont donné lieu à un régime suicidaire. Ça a été quand même trois générations de pouvoir théocratique et politique mélangé qui a abouti vraiment au désastre. Et moi, je pense que dans l'esprit de beaucoup d'Israéliens, malheureusement, il y a ce syndrome qui fonctionne. se fonctionne, qui fonctionne parce que le succès vous donne tous les droits. Donc je dirais là encore, je lève un tout petit peu mon propos contre justement cette idée de présenter l'État d'Israël comme un État idéal. Il n'est pas du tout idéal. C'est là qu'on voit les limites de la démocratie, là encore. Voilà une démocratie extrêmement active dans le quotidien, faite de gens cultivés et de gens respectueux les uns des autres, mais quelque part encore des gens qui ont totalement oublié qu'il n'y a pas que les Israéliens, il y a aussi les autres. Il y a aussi l'opinion du monde, des Juifs de la Galoute. D'ailleurs, vous observez comment le support à Israël aux États-Unis a largement diminué. 70% des Juifs américains ne se reconnaissent absolument plus dans ce qu'est devenu l'État d'Israël. Donc il faut le dire, c'est tout à fait réel. Le lobby de soutien à Israël aux États-Unis, ça représente 4% des Juifs américains. Et ils sont soutenus par les 30 millions de protestants fondamentalistes aux États-Unis. L'armée des Juifs américains pro-Netanyahou, ce sont les protestants évangélistes des États-Unis. Vous voyez, je vous dis des choses très dérangeantes. Mais c'est la vérité authentique. Authentique. Parce que tout simplement, on a totalement oublié que si le fait d'être sur la Terre représente ce qu'on appelle la SIA, c'est-à-dire la concrétisation du rêve messianique, alors que toute la galoute, c'est la Shemira, c'est la préservation. On est passé de la Shemira, la préservation, à la réalisation. Mais préservation et réalisation, c'est authentiquement consubstantiel. Il n'y a pas de réalisation sans préservation. Donc je veux dire que la parole des gens de diaspora, qui consiste à dire à l'enfer en Israël, écoutez, il faudrait quand même un peu que vous remettiez les pieds sur terre, c'est pas à l'aune de vos succès qu'il faut mesurer votre réussite morale, mais à l'aune de ce que vous présentez comme valeur qui correspond aux valeurs de la Torah. Or, c'est pas tout à fait ça, on est loin du compte. D'autant que le processus de déjudaïsation concerne maintenant plus de 50% de la société israélienne qui n'applique plus les pratiques du judaïsme. Donc je veux dire, on est dans des choses relativement graves qu'il faut savoir pointer. Alors quand je pointe les travers un peu de la démocratie, je pointe également, et avec beaucoup de tristesse, les travers de la démocratie israélienne, qui est une démocratie, qui est faite de gens que j'admire, que je révère, que je soutiens, mais qui n'ont pas toujours raison. Je crois que dans le comportement religieux, parfait dans la tradition juive, s'appelle le Gemilut Hasadim, il y a un élément qui est absolument fondamental, c'est la remontrance fraternelle. C'est-à-dire prendre quelqu'un à part en lui disant « là, tu déconnes complètement. Là, je ne suis pas d'accord. » Ça fait partie de la Gemilut Hasadim. Et moi, j'ai bien envie, quand je rencontre mes cousins en Israël, de leur dire « là, vous déconnez complètement, je ne suis absolument pas d'accord. C'est pas mon Israël. C'est pas mon Assia, mon début des temps messianiques. Quelque part, vous avez, sauté quelques cases dans votre jeu de loi. Ça ne va pas très, très bien. » Voilà.
La remontrance fraternelle, elle n'est pas que pour les Juifs. Les chrétiens l'ont bien compris, et en particulier chez les protestants, ça se pratique largement. Hein.
Merci beaucoup. Alors, je voudrais te dire combien je suis heureux. Il y a des points avec lesquels, aujourd'hui encore, je ne suis pas d'accord. Des points fondamentaux, j'étais très très heureux que Charlotte ait posé la question que j'aurais posée concernant la laïcité, parce que c'est un des deux points avec lesquels, enfin sur lesquels je suis en désaccord avec toi, parce qu'il me semble que ce que tu dénonces, à juste titre, s'agissant de la laïcité, c'est du laïcisme, c'est pas de la laïcité. Là, je ne vais pas dire la vraie laïcité, comme j'étais contre le fait qu'on parle de laïcité positive, il y a la laïcité, c'est laïque ou c'est pas laïque. Mais la vraie, enfin, voilà, je tombe dans le panneau, la laïcité, court, ça n'est pas ça. Ce que tu dénonces, et il me dénonce.
C'est vrai, il n'est pas d'accord.
Voilà, il n'est pas d'accord avec ce que je dis. Voilà. Donc ce que, oui mais, la Torah n'est plus au ciel, hein, c'est... Donc,
parce que je vais... ce que tu dénonces, pour moi, ça n'est pas du tout la laïcité. C'est la laïcité pervertie. L'autre point, je ne veux pas l'aborder, mais le point avec lequel je suis en désaccord avec toi, c'est la question des Lumières. Pour moi, les Lumières, je suis extrêmement attaché aux Lumières pour tout ce qu'elles nous ont apporté. Alors, c'est vrai qu'il y a eu énormément de travers. Voilà. Mais par contre, ces réserves étant faites, je veux te rendre hommage une fois de plus, parce que, je ne pensais pas en parler, mais je vais commencer par ça, pour le courage qui est tout à fait exceptionnel, qu'un juif dise, un juif de ta qualité, vous m'entendez, non ?
Oui. Oui. Oui.
Qu'un juif de ta qualité puisse dire ce que tu as dit au sujet d'Israël, moi qui suis si proche, je suis protestant, mais je suis tellement proche des juifs, j'étudie tous les jours et la plupart des auteurs sur lesquels je travaille sont des auteurs juifs, je suis trésorier de l'amitié judéo-chrétienne, côté de mon ami Eliane qui est présidente, mais je suis extrêmement critique vis-à-vis de ce qui se passe en Israël, non pas vis-à-vis des Israéliens, et que tu aies pu dire ce que tu as dit, ça me semble d'une telle justesse. Voilà, je voulais te rendre hommage. Mais je voulais te rendre hommage aussi d'une manière globale pour ce que tu as dit, parce que tu es toujours aussi brillant, aussi lumineux, et je ne suis pas du tout complaisant. Que tu aies pu nous tenir un tel propos aussi riche, aussi fourni, sans notes, simplement... un canevas que j'ai regardé, que tu n'as pratiquement jamais consulté, juste avec les items essentiels. C'est quand même extraordinaire. Cette faculté d'aborder le prisme du thème qui a été choisi cette année, à partir d'angles qui sont à la fois originaux, parce qu'on n'a pas l'habitude de les aborder comme ça, originaux et exigeants. Cette faculté de pointer les dangers qui sont souvent masqués, camouflés par des concepts qui apparaissent comme des concepts pétris de noblesse. Et c'est tout à fait d'actualité en plus, parce que vient de sortir le dernier rapport du Conseil national des droits de l'homme, qui pointe les dangers, qui nous dit que les actes de racisme anti-musulman se sont accrus de 30% et antisémites de 58%. Donc tu as pointé. Voilà. La faculté de dénoncer la manière dont les idées fondatrices peuvent être perverties. Les idées les plus nobles, le libéralisme, et ce qu'on en a fait avec le néolibéralisme, et les trois termes de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, comment on peut tordre ces concepts-là. Et puis cette faculté de... ça c'est très intéressant aussi. Cette faculté de nous mettre en garde contre la tentation qui nous habite tous, de parcelliser, de fragmenter la réalité pour s'en tenir à une dimension partielle, et donc partiale, qui fait que tout est faussé et qu'on perd l'essentiel. Merci encore infiniment, cher Albert.
Tu es toujours tellement généreux à mon égard, mais je m'excuse de planter deux banderilles en face, en thème de deux déprofondis. Moi, je pense que l'idée de laïcité, telle qu'elle a été présentée depuis 200 ans, elle est morte. Elle est morte. On est dans le laïcisme actif actuellement. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est devenu tellement lourd, tellement prégnant, qu'on est dans l'annulation des origines. C'est très important de parler des origines et de l'affiliation à l'époque du grand débat sur le mariage gay et sur l'adoption. Problème des généalogies. Nous, juifs, nous survivons grâce à l'affiliation, grâce aux généalogies. Donc, ce problème de la généalogie des idées est très important. Or, je dois constater que la laïcité républicaine rêvée, utopique, est morte. Elle a fait la place soit à un laïcisme méchant, agressif, soit à ignorance totale et organisée du fait religieux. Premier déprofondis. Deuxième déprofondis, et je suis désolé de te planter une banderille de plus, j'en parlais tout à l'heure avant la conférence à propos d'un magnifique livre de Pierre Bourès qui s'appelle Les témoins du futur, et qui démontre à l'évidence comment le rêve de Kant et de Goethe de la civilisation éclairée par la beauté, la raison et la beauté ensemble, est mort à Auschwitz. Je veux dire que quelque part les inventeurs des Lumières, les Allemands, ont assassiné les Lumières à Auschwitz. Donc ça aussi, c'est un cycle. Donc tout est ouvert actuellement. Et qu'est-ce qui est ouvert ? le constat, déjà, avec lucidité, avec douleur. Vous avez... Je ne suis pas très heureux de ce que je dis ce soir. Hein, je ne suis pas du tout heureux. Je fais simplement un constat le plus lucide et le moins égoïste possible du champ de ruines que représente le résultat des Lumières et des fausses idées de démocratie et de liberté. Par contre, je dis, il est temps pour nous, qui portons depuis si longtemps des valeurs, mais qui sont des valeurs à la fois de foi, mais aussi des idées sur la justice, des idées sur les capacités de l'homme à se reconstruire, à se construire, à évoluer, à devenir meilleur, que nous intervenions dans le débat public. Il faut sortir des temples, il faut sortir des synagogues, il faut sortir. Moi, j'ai une amie à Chambéry qui est protestante et qui m'a fait beaucoup rire pendant 20 ans parce que chaque fois, elle se lève et elle dit « Moi qui suis protestante !» Et tout le monde se moque d'elle. Et moi, je ne me moque pas d'elle. Je me dis « C'est comme ça qu'il faut faire. » Il faut dire « Je suis de nous. Je m'appelle Eliane, je suis fonctionnaire, je suis célibataire, mais je suis protestante. » C'est qu'avec tout ce que la vie m'a infligé comme douleur, il est bien évident que ce qui me porte, c'est effectivement que j'ai un corpus de doctrine, et ce corpus de doctrine inclut également des idées quant au futur de l'humanité. Je ne vous l'impose pas, je ne suis pas prosélyte, mais voilà ce qui me fait vivre. Nom de chien, il faut quand même dire aux gens que notre colonne vertébrale, c'est ça. Pourquoi je suis juif encore ? Alors que toute ma famille a été massacrée, et que depuis très longtemps, ça serait très facile de ne plus être juif. Parce que tout simplement, ce qui me fait vivre, ma colonne vertébrale, c'est ce que je retrouve dans les vieux textes. Parce que dans ces vieux textes, si difficiles à lire et à décrypter, il y a des éléments qui me rassurent. Je sais que l'homme est perfectible. Je sais que ce que je vois tous les jours, la perversion des idées, le fait que les grandes utopies soient livrées au caniveau, eh bien, c'est pas ça la vraie vérité. La vraie vérité, c'est la Torah. C'est de me dire, ben, si tu peux grimper à main nue sur la paroi, tu peux y arriver. Mais si tu respectes les mitzvot, tu as ta via ferrata et tu grimperas plus haut que les autres. La Torah, c'est une via ferrata. Et je dois le dire aux gens, c'est très important, parce qu'il y a pour moi les éléments à la fois de lucidité, de regard sur le monde des autres, de regard tolérant, de regard amical, de regard affectueux sur vous tous. Mais il y a cette idée très très forte que ce qui me fait vivre, c'est cette promesse, cette espérance, cette promesse de contribuer à l'avenue du Fils de l'homme, qui pour les Juifs n'est pas Jésus, mais qui est tout simplement l'homme témoignant d'une création achevée, la fin du grand Shabbat de l'humanité.
Je trouve que vous avez un message très noir, et moi qui ne suis pas une optimiste de nature, je voudrais quand même donner une coloration un peu plus positive à vos propos, en disant notamment, quand vous parlez des utopies de la démocratie, juste dire que si question que tout le monde peut se poser, quelle époque, quel pays j'aurais aimé vivre dans l'absolu, je dirais notre époque et notre pays. Je trouve quand même qu'il ne faut pas oublier, et que c'est faire preuve d'une certaine ingratitude, que de se dire que cette démocratie que vous critiquez aujourd'hui, moi je la trouve magnifique. Et si on parle de certains pays qui ne savent pas en utiliser, c'est peut-être parce qu'ils ont un régime électoral à la proportionnelle qui les paralyse. Je pense que votre pays en est peut-être celui-là. Mais ce n'est pas...
Ce n'est pas mon pays, moi je suis français. Hein.
Celui qui vous tient à cœur, peut-être. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas la démocratie qui forcément pose problème. C'est quelquefois un régime électoral, et c'est quelquefois, moi je crois énormément à l'éducation, et vous l'avez dit très justement, qu'il peut y avoir un individu qui, au moment d'une affaire Dreyfus, peut dire n'importe quoi, que la presse s'en saisit, c'est ça, le drame arrive là. Mais moi je trouve extraordinaire que dans nos sociétés, encore aujourd'hui, il n'y a pas une parole unique, et il y a des choses quand même très très belles qui peuvent se créer, et quand vous dites qu'aujourd'hui, la religion, elle ne peut plus être exprimée. Je suis totalement contre avec ça, avec cette idée-là. Je trouve au contraire qu'il y a un espace religieux ouvert qui est énorme il peut être critiqué. C'est pour ça que, effectivement, vous en faites état. Peut-être que dans une école, on ne peut pas parler de la Shoah. Tant bien. N'empêche qu'on en a parlé, puisque justement, ça fait toute une histoire, et on en parle dans plein d'écoles. Je trouve que vraiment, il y a une ouverture dans nos sociétés qui apporte toutes les dérives, mais qui existe, qui est réelle, et qui pour moi est une grande chance, quand même. C'est une note optimiste.
Qui disait « La démocratie est le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres ». Voilà. Le constat que je fais n'est pas un constat noir, c'est un constat douloureux. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Moi, je souffre énormément de cela. De quoi je souffre? Je souffre du fait qu'on a une représentation nationale, une classe politique innommable, avec des gens qui sont pas à la hauteur de ce magnifique pays et de sa culture. On a maintenant, ce sont les déclassés qui font de la politique. Hein. Est-ce que les derniers gens que j'ai vu ouvrir un livre dans notre représentation nationale, c'est Jacques Ralite et Hervé Guémard? Je veux dire qu'il n'y a plus personne qui lit un livre. Même notre président François Hollande se fait comme une gloire de n'ouvrir jamais un bouquin. Tu vois, hein. Et je veux dire, ce déclassement de la représentation politique, c'est-à-dire ce désaveu de la représentation nationale, ça me fait mal. Parce que c'est ça le mésusage de la démocratie. Le caractère désastreux du journalisme en France. Journalisme catastrophique à tous les points de vue. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce qu'on s'est bagarré pour ça? Non. Je veux dire que ces métiers, qui sont des métiers de représentation, de vérité, ont totalement été dévalués et ont disparu. Parce que tout simplement, l'esprit du marché, l'esprit de la réussite a gagné, le libéralisme a gagné. C'est pour ça que je disais que le drame de la démocratie, le drame de la République, c'est le fait qu'on n'a pas compris qu'en même temps que les idées républicaines venaient avec, massivement, le libéralisme économique. C'est-à-dire que l'injustice venait avec la justice. Ils étaient mariés. Et ça, c'est absurde. C'est ça que je déplore. Par contre, je ne suis pas du tout opposé au régime démocratique. Pour revenir à l'expression de ma pensée philosophique et religieuse, je veux dire qu'elle m'appartient. La publicité que je lui donne m'appartient. Jamais je n'ai voulu convertir quiconque. Je ne suis pas un homme de parti. C'est pour ça que je combats les idéologies comme de nouvelles idoles. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est pas par hasard que ça commence par les mêmes lettres. Hein, ces nouvelles idoles, je les combats. Je suis comme je suis, parce que je pense que le fait que des gens comme moi ou comme vous soyez là, ça représente des pôles de repères dans cette société, tout simplement. Et le questionnement que j'émets aujourd'hui, et les critiques que je formule aujourd'hui, c'est mon raisonnement personnel. Tout à l'heure, tu m'as dit que quand je donne des conférences, je consulte pas mes notes. Parce que tout simplement, face à vous, je continue à réfléchir. C'est de ça qu'il s'agit. Paul Auster, que j'aime beaucoup comme romancier, vient d'écrire encore un remarquable bouquin de mémoire. Eh bien, Paul Auster dit « Chacun de mes romans ne parle que de moi. C'est avec vous que je fais ma réflexion sur moi-même. » Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ma réflexion sur un état des lieux de cette société et les capacités que nous avons à rebondir. Ce n'est pas une critique, comment dirais-je, radicale, du modèle politique que nous vivons actuellement, qui, avec tous ses défauts, représente quand même un espace de liberté indéniable, indéniable, par rapport à ce qui peut se passer sous Poutine ou dans tel et tel, ou sous Chavez, par exemple. Mais il n'empêche que on ne m'ôtera pas de l'idée que derrière les grands mots de liberté, égalité, fraternité, de démocratie, de représentation électorale, de politique, derrière, actuellement, il y a énormément de mensonges, il y a beaucoup de non-dits, et il y a beaucoup de, comment dirais-je, d'instrumentalisation au profit, quand même, de puissances qui sont pour la plupart économiques.
Non. Merci Albert. Moi, je suis bien sûr particulièrement touchée sur ce que tu dis, même si j'adhère aussi à ce que dit madame, parce que moi, j'ai le souvenir de mon père venant en France en 1920 en disant que c'était le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, effectivement, venant de sa Bessarabie, triste à en mourir. Il s'est senti vraiment heureux et il nous a transmis cela, l'amour de la France et l'amour de la démocratie et de la liberté. Mais le problème se pose même au niveau de nos réflexions à l'amitié judéo-chrétienne. et je voulais faire comme une petite publicité là maintenant. Cette réflexion se fait même sur un plan international de l'amitié judéo-chrétienne, puisqu'il y aura, concernant la laïcité, un colloque qui va se tenir à Aix, en Provence, à Aix-la-Baume, du 30 juin au 3 juillet, et le titre étant « La laïcité de point, une chance ou un défi pour les religions, point d'interrogation ». Aussi bien en France que dans le monde. Donc voyez-vous, finalement, tout ce qui a été dit là, tout ce sens politique, religieux, au travers de la laïcité, également la réflexion qui va être importante. Alors, je vous invite, je vais mettre, Charlotte m'en a donné la permission, notre amie Nicole, présidente, elle n'est pas là et je n'ai pas pu lui demander, mais je mettrai quelques flyers en bas. Si vous aurez un contact mail dont vous pourrez voir, vous inscrire si vous avez envie de venir, parce qu'il y aura des personnes vraiment importantes, comme le grand rabbin de France, le pasteur théologien Gilles Bourquin et Monseigneur d'Agence et d'autres. Sur 3 jours, il y aura une grande, grande réflexion. Donc, on est vraiment dans ce qui a été dit aujourd'hui. Je crois qu'on est dans une actualité très brûlante et une réflexion. Et il faut que nous nous réveillions absolument de savoir discerner ce qui est bon pour nous et ce que nous sommes, nous, à la fois individuellement, ce que nous sommes capables d'être, d'accepter d'être, de le dire, de le vivre, pour que autour de nous, on puisse bien vivre ensemble. Ça, c'est vraiment notre devise, en tout cas la mienne, celle d'Albert, je le crois vraiment, et de l'amitié judéo-chrétienne, ça c'est plus que sûr. Merci, merci de m'avoir donné la parole.
Encore une question ? Charlotte.
C'est pas une question, mais c'est juste une remarque sur la notion du manque que j'ai beaucoup appréciée, que vous avez mentionnée, et pour laquelle, j'avoue, je le dis, j'ai pas l'habitude de l'entendre souvent dans la bouche d'une personne de la communauté juive. On a plutôt l'impression que parfois, cette personne dit que finalement elle a besoin de personne et qu'on forme un tout dans ma communauté. Voilà, c'est moi souvent ce que j'ai entendu et je suis d'autant plus ravie de vous l'entendre dire. Et effectivement pour moi, mais aussi pour les chrétiens, cette notion de manque est centrale dans notre foi. On n'est pas fini, on n'a pas fini, on a besoin des autres et de Dieu pour avancer sur un chemin. C'est pour ça que je suis très reconnaissante d'avoir mentionné cela.
Merci Charles.
On va pas refaire une conférence là-dessus. J'ai été invité par des élèves de terminale, d'une très bonne terminale, au lycée de Chambéry, à parler du récit de Caïn et Abel à travers la littérature. Comme ils savaient que je suis passionné de littérature, donc à travers Baudelaire, à travers Victor Hugo, à travers les gens qui l'ont inspiré. Et je leur ai fait une exégèse de Caïn et Abel. Et je leur ai expliqué que l'histoire de Caïn et Abel, c'est pas du tout un problème qui est lié à Caïn. Nous sommes tous descendants de Caïn. C'est un problème qui est lié à Abel. La grande faute, c'est celle d'Abel, qui n'a pas su créer un espace de parole. Lui qui était intelligent, qui était cultivé, qui était l'intellect, qui était un clerc. Par rapport à l'ouvrier qui était l'homme de la terre, l'homme de l'industrie qui était Caïn, il n'a pas su créer, il n'a pas su s'effacer pour créer un espace, pour créer, comme le dit très bien Gilles Bernheim, les conditions de la rencontre. Je crois que la faute, c'est celle de l'intellectuel, c'est celui qui sait. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une thématique forte dans le judaïsme, c'est le mésusage de la parole. Je veux dire, celui qui dispose de la parole doit savoir ne pas en mésuser, ce qui rend tout à fait infamant le comportement actuel de la classe politique. Les gens qui ne savent pas dire une parole vraie, et se mettre un tout petit peu en écoute de la parole des autres. Je veux dire que cette notion est centrale dans le judaïsme. Ne pas mésuser de la parole et créer les espaces de la rencontre. Pour rebondir ce que tu disais, ça m'a rappelé quelque chose d'extraordinaire qui concerne un de mes dieux, des petits dieux, qui est Lévinas. Et quand il s'est agi à Vilnius avec son libre de père d'aller faire ses études quelque part, ils ont cherché des pays où aller. Et Lévinas s'est dit, pourquoi pas la France ? Et son père lui dit, mais comment ? Ils viennent de s'entretuer pour l'affaire Dreyfus. Et Lévinas a dit, Un pays où on est capable de s'entre-déchirer pour l'honneur d'un homme, ça vaut la peine d'y aller.
Oui, merci. Alors, on t'écouterait pendant des heures. On te poserait des questions en particulier. Tu vas être obligé de revenir parce que j'aimerais qu'un jour tu nous expliques. J'avais jamais entendu cette interprétation quand Dieu dit « Vous n'aurez pas les idoles des autres peuples », que ça sous-entend, on comprend bien pour les Juifs ce que ça représente, pour les Hébreux à l'époque, mais ça sous-entend que les autres auraient le droit d'avoir des idoles, tu as ajouté « à condition qu'elles soient relatives ». Alors voilà une ouverture, je pense qu'il faudra...
Partielle. L'idole, c'est une vérité partielle.
Voilà.
La vocation du Juif, c'est la synthèse, vers l'unité.
Voilà. La vocation de la... Les missions qui sont dévolues sont d'une difficulté différente. Dieu a donné à tous les peuples, qu'il reconnaît comme tels, comme ses créatures, des missions partielles. Reconnaître une vérité et ensuite passer à une autre. L'important, comme dit le Deutéronome, c'est de ne pas s'arrêter à une idole, à une vérité partielle. C'est d'aller vers la vérité qui suit. C'est la démarche, comme toujours en hébreu, la halakha. Il faut bouger, il faut se bouger d'une idole à une autre. Le boulot des Juifs est différent. C'est d'apprécier l'intégralité de ces valeurs dans une synthèse qui va restaurer l'unité de Dieu.
Ça fait une séance, un séminaire.
Oui, ça fait. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci, merci Adair. Oui. Alors, voilà, essayez de ne pas retenir trop Albert, qui a la route à faire, il a sa consultation après. J'aimerais qu'il ait le temps de prendre un café, parce qu'il m'a dit qu'il n'était pas très dessert. Et puis, on le laisse se sauver. Et puis donc, la semaine thématique se continue. Demain, à midi, c'est le pasteur Bruno Gérard.